RFI 8h à Paris, 6h en temps universel. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Les marchés financiers vacillent, mais Donald Trump y croit.
L'économie est malade et ses droits de douane vont tout arranger, dit-il. Un optimisme qui tranche avec la fébrilité qui s'est emparée de la planète depuis mercredi. Et ces hausses décrétées par le président américain, on y revient longuement dès le début de ce journal. On sera en Ukraine après de nouvelles frappes de drones cette nuit attribuées à la Russie. Elles ont visé Kharkiv et aurait fait au moins 4 morts et une trentaine de blessés. En Corée du Sud, c'est désormais officiel, Yoon Suk-yeol n'est plus le président. Il a été destitué en décembre par les députés, mais ça devait encore être confirmé par la Cour constitutionnelle. Eh bien, c'est fait, et à l'unanimité en plus. Dans ce journal également, la haute cour de Nairobi qui vient de déclarer la justice kényane compétente pour poursuivre le géant américain Meta. Et puis on terminera en musique avec le début d'une carrière solo pour Jennie, rappeuse dans le groupe de K-pop à succès Blackpink.
Les droits de douane américains sont une crise nationale pour le Japon.
Réaction du premier ministre japonais Shigeru Ishiba, alors que son pays est très dépendant de ses exportations vers le sol américain, sauf qu'exporter là-bas va coûter plus cher, 24% de plus. Et ce n'est qu'une petite ligne dans le tableau très fourni qu'a brandi Donald Trump mercredi, le jour de la libération comme il l'a appelé, le jour surtout où le locataire de la Maison Blanche a officiellement déclenché la guerre commerciale. 10% de taxes douanières supplémentaires pour tous les pays ou presque. Et à cela, il faut ajouter des majorations au cas par cas, 34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne, 26% pour l'Inde, 30% pour l'Afrique du Sud. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour.
Depuis le service économie de RFI, Donald Trump avait promis, Nathanaël, une journée historique, promesse tenue.
Gaëtan, les marchés n'avaient pas subi un tel choc depuis la pandémie de Covid-19. Les valeurs boursières américaines ont perdu 3000 milliards de dollars en une seule journée. Pour mettre ce chiffre en perspective, Donald Trump espère que ces nouvelles taxes douanières rapporteront 600 milliards de dollars par an au Trésor américain. La plupart des économistes jugent ce chiffre très optimiste, mais admettons, les 3000 milliards de dollars effacés en bourse hier représentent donc 5 ans de revenus hypothétiques pour les États-Unis. Des revenus qui, il faut le rappeler, ne seront pas payés par les entreprises qui exportent aux États-Unis, mais par celles qui importent, un surcoût qu'elles vont répercuter sur les prix. Et à la fin, c'est donc le consommateur américain qui va payer l'addition. Le docteur Trump assure que l'opération chirurgicale est terminée, que le patient en sortira plus fort et plus résistant. Un pronostic optimiste que ne partage pas le monde des affaires. JP Morgan, la plus grande banque américaine, estime désormais que la politique douanière du président américain menace de faire basculer les économies américaines et mondiales dans la récession. Le Fonds monétaire international a publié un communiqué dans lequel sa directrice supplie les différents acteurs de négocier pour préserver une économie mondiale encore très fragile.
Alors justement, Nathanaël, comment les autres régions du monde ont-elles absorbé le choc ?
Mal. Les bourses en Asie et en Australie continuent de reculer fortement ce vendredi. On devrait observer la même chose dans quelques heures en Europe, alors que l'Union européenne estime que les nouvelles taxes vont toucher pour 290 milliards d'euros de produits, les industries les plus touchées étant la métallurgie et l'automobile.
Merci Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Le secteur automobile, lourdement frappé avec des droits de douane sur les importations aux États-Unis, 25%. En plus, c'est appliqué depuis hier. Conséquence, Nissan annonce ce matin arrêter de commercialiser aux États-Unis 2 de ses SUV produits au Mexique. Du côté de Volvo Cars aussi, on va devoir s'adapter, car si le constructeur suédois se porte plutôt bien, c'est vrai, comparé à d'autres, eh bien ça reste un violent coup de frein. Correspondance à Stockholm d'Otilia Ferré.
La seule chose à faire est de suivre la loi de Darwin et de s'adapter plus rapidement que les concurrents. C'est ce qu'a déclaré ce 3 avril Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, qui a aussi annoncé sa stratégie, à savoir réduire les coûts en augmentant les volumes de production dans l'usine Volvo située à Charleston, aux États-Unis. 2 modèles y sont déjà produits et un 3e devrait bientôt y être fabriqué.
Volvo est présent aux États-Unis depuis 1957 et notre intention est d'y rester. C'est un marché très important pour Volvo.
Une voiture Volvo sur 5 est vendue sur le marché américain et les 2 modèles qui y sont le plus vendus sont fabriqués dans la ville suédoise de Göteborg. Le constructeur est l'un des plus grands employeurs en Suède. Beaucoup s'inquiètent donc pour leur emploi, mais auprès des médias suédois, le directeur de Volvo a voulu se montrer rassurant.
Nous prévoyons que l'entreprise se développera et gagnera des parts de marché dans cette transformation vers l'électrique. Je ne vois donc pas un avenir où nous devrons réduire nos activités à Göteborg.
Il a aussi promis d'établir un programme clair d'ici un mois concernant la production et la manière dont Volvo va désormais vendre ses voitures. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et les droits de douane supplémentaires appliqués par les États-Unis, vous en parlez juste après ce journal, Julien Coquelroem, avec votre invité.
Oui, Shane Vallée, ancien conseiller du président du Conseil européen, également ex-conseiller du ministre de l'économie en France. Il est aujourd'hui chercheur en économie politique au Conseil allemand pour les affaires étrangères. On va notamment parler de la riposte européenne. Ce sera dans un petit quart d'heure.
Un cadre du Hamas tué avec son fils et sa fille dans le sud du Liban. C'est ce qu'indique une source palestinienne à nos confrères de l'AFP. Ils auraient péri après un raid israélien dans la ville de Saïda. Le 1er avril, déjà, une frappe de l'armée israélienne avait visé la banlieue sud de Beyrouth malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Pour ce qui est de Gaza, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, se dit horrifié par les meurtres de 15 personnels de santé et travailleurs humanitaires. Et ça soulève, dit-il, de nouvelles inquiétudes quant à la commission de crimes de guerre par l'armée israélienne. À ces 15 corps, notamment 8 membres du Croissant-Rouge palestinien, ont été retrouvés près de Rafah. 4 morts et 35 blessés cette fois en Ukraine à Kharkiv, dans l'est du pays, après de nouvelles frappes de drones attribuées à la Russie. Cette nuit, on est en direct de Kiev avec notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, les civils ukrainiens continuent d'être victimes de ces frappes.
Oui, tout à fait. La ville de Kharkiv a une nouvelle fois été touchée par ces attaques de drones. Elles sont lancées quotidiennement ou presque contre l'Ukraine par la Russie. Et le gouverneur militaire de la région, Oleg Sinebouhov, dénonce une troisième nuit d'attaques de grande ampleur au-dessus de la ville. 4 morts et des dizaines de blessés, vous l'avez dit, parmi lesquels un enfant, alors que les secouristes continuent de chercher les décombres à la recherche d'éventuelles autres victimes. Il y a également d'autres blessés dans la région de Kharkiv, elle aussi touchée, et dans celle de Zaporizhia, Dnipro et Kiev, en raison de la chute de débris de drones. Ce matin, la défense aérienne ukrainienne annonce avoir détruit ou détourné 64 des 78 drones kamikazes envoyés par la Russie. Sous le coup de ces attaques qui restent quotidiennes, difficile pour les Ukrainiens d'avoir foi en des pourparlers qui mèneraient à un cessez-le-feu, lequel les délégations ukrainiennes et le gouvernement ont pourtant accepté si la Russie le respectait également. Mais sur le terrain, un apaisement est loin d'être visible. Pour le seul mois de mars, les autorités ukrainiennes disent avoir abattu plus de 4000 drones russes au-dessus du territoire.
Merci Emmanuel Chaz, notre correspondante en direct de Kiev.
Les excuses de Yoon Suk-yeol.
Je suis vraiment désolé et j'ai le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, écrit le désormais ex-président sud-coréen, dont la destitution, votée en décembre dernier par les députés, vient d'être confirmée à l'unanimité par la Cour constitutionnelle, 4 mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Il n'est donc plus à la tête du pays. Une élection anticipée doit avoir lieu dans les 60 jours. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs la fin du parcours judiciaire pour Yoon Suk-yeol, toujours jugé au pénal pour insurrection. Il encourt la peine de mort.
À la une également, Meta bientôt à la barre au Kenya.
Oui, l'affaire remonte à 2022. Deux ressortissants éthiopiens avaient porté plainte contre Facebook, l'un des réseaux sociaux de Meta, qu'ils accusent d'avoir propagé des messages de haine durant la guerre du Tigré. Mais depuis, le géant américain avait tenté de se soustraire à la justice kenyane, estimant qu'elle n'était pas compétente pour la juger. Sauf que si, Gaël Lalex, c'est la haute cour de Nairobi qui a tranché et qui le dit.
Pour Abraham Mereg, l'un des plaignants, le soulagement est immense. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, doit s'imaginer que la justice commence et finit aux frontières américaines. Mais les vies africaines comptent, commente-t-il à l'issue de l'audience. Abraham a perdu son père en 2021. Ce professeur de chimie à l'université de Bahardar, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, a été assassiné après que son adresse a été publiée sur Facebook, accompagnée de commentaires haineux. Fitsea Tekle, autre plaignant, est chercheur pour Amnesty International. Durant la guerre du Tigré, sa vie tourne au cauchemar quand il se retrouve victime d'une campagne de menaces sur les réseaux sociaux. Meta est mortel. Son algorithme valorise la violence, commente Rosa Curling, directrice exécutive de l'organisation Foxglove, qui accompagne les parties civiles. Elle rappelle que le géant américain n'est pas au-dessus des lois africaines. Les parties civiles demandent qu'un fonds de dédommagement pour les victimes de haine sur Facebook soit créé et abondé d'au moins 2,5 milliards de dollars. Elles demandent également la modification de l'algorithme du réseau social, ainsi que des efforts supplémentaires pour sa modération. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Marine Le Pen, victime d'une chasse aux sorcières opérée par des gauchistes européens.
La lecture du président américain Donald Trump après la condamnation de la chef de file du Rassemblement National en France. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, écopant de 4 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout de 5 ans d'inéligibilité, ce qui pourrait l'empêcher de concourir à la prochaine présidentielle. Une erreur chiffres comptables, dit Trump. Ce n'est pas ça la démocratie, ajoute son vice-président J.D. Vance, soutien assumé des partis d'extrême droite en Europe.
Il y a aussi cette autre affaire judiciaire dont se mêlent les États-Unis, cette fois en Angleterre.
Ah oui, car c'est aujourd'hui que la justice britannique qui doit trancher et condamner ou non Livia Tosici-Bolt. Elle est accusée d'avoir enfreint les zones d'exclusion autour des cliniques pratiquant les interruptions volontaires de grossesse. Car dans le pays, les manifestations sont interdites dans un rayon de 150 mètres pour éviter toute pression sur les patientes. Livia Tosici-Bolt, elle, avait brandi un panneau avec écrit « Disponible pour parler si vous voulez ». Et Emeline Vint, la droite américaine, s'est donc invitée dans ce procès.
Ce devait être une affaire presque banale de trouble à l'ordre public, mais le département d'État américain dit surveiller de près le jugement de la militante anti-avortement Livia Tosici-Bolt, accusée d'avoir enfreint l'interdiction de manifester aux abords des cliniques. Le ministère reprend les déclarations du vice-président J.D. Vance, fortement préoccupé par la liberté d'expression au Royaume-Uni. Plus concrètement, des fonctionnaires du département d'État ont rencontré Livia Tosici-Bolt et sa défense est financée par l'Alliance de défense des libertés, l'ADF, une organisation conservatrice américaine qui défend, je cite, « le droit des chrétiens à exprimer leur foi en public ». En février, Washington avait déjà apporté son soutien à un autre Britannique condamné pour avoir prié devant la même clinique anglaise. Toute manifestation est interdite depuis 6 mois aux abords des cliniques de planning familial en Angleterre, une demande de longue date de la part des ONG de défense de l'IVG qui dénoncent des tactiques d'intimidation par les militants anti-choix. Ces ONG s'inquiètent que ces militants soient désormais financés par les puissants réseaux conservateurs américains. Emeline Vint-Londres, RFI.
Enfin Gaëtan, on termine en musique avec ce quatuor sud-coréen dont chaque membre vole désormais de ses propres ailes.
Les Blackpink ne se sont pas séparés pour autant, rassurez-vous, ils doivent d'ailleurs entamer une tournée mondiale cet été, mais désormais les 4 chanteuses de K-pop ont sorti un album solo. Celle qui aura le plus tardé, c'était Jennie. Ses fans s'impatientaient, eh bien les voilà comblés, son album s'appelle Ruby, présentation avec Noor Marzougi.
Trois semaines après la sortie de son nouvel et premier album en solo, Jennie a montré à l'autre versant de l'hémisphère qu'elle était bien plus qu'un simple produit commercial. Kim Jennie, comme elle se fait appeler, a imaginé cet album du début à la fin. Direction artistique, tenue, photo de l'album, collaboration choisie et écriture évidemment, elle n'a rien laissé au hasard. 7 titres sur 12 sont d'ailleurs signés par elle. Avec la création de son propre label, Au d'atelier, la pop star avait le champ libre, lui permettant d'ôter l'étiquette K-pop qui lui colle à la peau et de s'ouvrir à des nouveaux genres musicaux, notamment le hip-hop ou le rap, grâce à des collaborations avec des artistes comme Doechii ou Childish Gambino. Et force est de reconnaître que ça lui réussit. L'album a déjà obtenu une certification de platine aux États-Unis et plus d'un milliard de streams en moins d'un mois. L'année 2025 serait-elle celle de Jennie ? This that pretty girl munch, this
that flaunt, she just touched down in LA. Pretty girls don't do drama. Un sujet signé Noor Marzougi, 8h13 à Paris.
Et un grand merci Gaëtan Planet, on vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite les sports. Avec vous, Antoine Grenier, le football féminin pour démarrer avec la 3e journée de la Ligue des Nations et l'équipe de France en visite en Suisse.
Les Bleus au parcours idéal jusqu'ici, 2 matchs, 2 victoires dans leur groupe 2. Alors l'idée c'est jamais 203, surtout face à une équipe de Suisse dernière et en quête d'une victoire. Rencontre prévue à Saint-Gall, futur camp de base des Bleus lors de l'Euro prévu l'été prochain. L'occasion rêvée donc de se familiariser avec les environs et avec la pelouse sur laquelle les Françaises débuteront leur championnat d'Europe face au Pays de Galles. Le hasard fait donc bien les choses, reconnaît Laurent Bonadei, même si le sélectionneur tricolore invite ses joueuses à ne pas se tromper de compétition.
Ça sera l'occasion de prendre les repères, de prendre connaissance des lieux et puis de s'imprégner du contexte. Donc c'est une bonne chose. Après, il faut pas toujours avoir en tête qu'il y a l'Euro. C'est vrai que c'est la compétition très importante de cette année 2025. Et il faudrait pas que les joueuses commencent à faire les matchs en avance et de se dire qu'on joue à Saint-Gall contre le Pays de Galles. Non, on joue contre la Suisse, ça va être un match très difficile parce que la Suisse c'est une équipe déjà avec la coach qui a un sacré palmarès et qui fait progresser cette équipe, une équipe rajeunie avec des gros potentiels. Donc vraiment qu'on soit focalisé sur ce match. On est à Saint-Gall, c'est vrai, mais on n'est pas encore à l'Euro.
Suisse-France, troisième journée de Ligue des Nations, coup d'envoi 18h temps universel. L'Espagne, tenante du titre, ira elle affronter le Portugal à 18h45 TU.
Chez les messieurs, l'heure est au championnat avec le coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 1.
Et à défaut d'une rencontre d'anthologie, on aura plutôt un sommet d'ornithologie. Les Aiglons face aux Canaries. Nantes se bat pour ne pas descendre en Ligue 2. Nice rêve encore d'Europe. Les dernières sorties niçoises ont été décevantes. Deux défaites et un nul. Du coup, les ambitions ont pris du plomb dans l'aile avec une 4e place au classement à de longueur de Marseille, mais pour l'entraîneur niçois, Francaise, l'heure n'est pas à la remise en question, bien au contraire.
Vraiment, le message, il est clair. C'est justement de tout envoyer. Il reste 7 matchs. On joue, on envoie. Et après, si on doit terminer loin, ben on terminera loin. Parce qu'on n'aura pas été assez performant dans la durée de la saison. Mais je crois qu'on a les... Enfin, c'est pas je crois. Je suis persuadé qu'on a les moyens. Donc, je pense qu'on doit aller plus loin et arrêter de se poser. Si tenté quand certains se posent des questions, arrêtons de s'en poser. Et jouons au foot. Moi, je veux juste qu'il y ait zéro regret quand on va se quitter le 18 mai. Donc, vivons les 7 matchs et les 6 semaines qui restent avec du plaisir, de l'engagement, du jeu. Et puis, s'il y a des équipes qui sont meilleures que nous, ils nous battront. Ce ne sera pas la fin du monde.
Nice-Nantes, coup d'envoi 18h45, temps universel.
En Angleterre, Chelsea conserve sa 4e place de première ligue.
Les Blues vainqueurs de Tottenham 1-0 sur un but d'Enzo Fernandez à la 50e minute. Un match haché par plusieurs recours à la VAR. Chelsea reprend sa 4e place devant Manchester City et Newcastle. Tottenham, en revanche, enregistre une 16e défaite cette saison et reste scotché en 2e partie de tableau à la 14e place.
On termine avec le basket et le choc de la conférence ouest de NBA qui bascule du côté de Golden State.
Les Warriors ont pu compter sur les 37 points de Stephen Curry pour dominer les Lakers de Los Angeles, 123-116. Golden State désormais tout près de garantir sa place en playoff à la 5e position de la conférence. Derrière, Minnesota garde le rythme et la 6e place qualificative directement en dominant les Nets de Brooklyn, 105-90.
Merci Antoine Grenier. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie ce matin, difficile de ne pas revenir sur les mesures commerciales de Donald Trump prises mercredi à l'encontre des pays du monde entier. On a évidemment beaucoup parlé des conséquences pour les pays concernés et pour l'économie mondiale. L'une d'elles est d'ailleurs encore visible ce matin avec les courses des bourses asiatiques dans le rouge alors que les marchés américains ont vécu leur plus mauvaise journée hier depuis le Covid. Alors on s'interroge à présent, question simple finalement Stéphane, pourquoi Donald Trump a-t-il déclenché cette guerre commerciale? Qu'est-ce que peuvent y gagner les États-Unis?
C'est vrai, mais comme souvent Julien, vous en avez l'habitude à question simple, réponse un peu plus compliquée. Donald Trump veut tout simplement rendre l'Amérique encore plus puissante comme il le martelait d'ailleurs durant sa campagne électorale, traduisant plein emploi, croissance forte, donc plus de production sur le sol américain ou encore tenter d'atteindre l'autosuffisance et cela à tout prix en utilisant les outils et les mécanismes économiques qui lui semblent être les plus opportuns finalement.
Et justement, l'un de ses outils préférés, ce sont les droits de douane.
Oui, taxer et encore taxer. Voilà la solution que Donald Trump a trouvée pour réduire le déficit commercial américain. On le rappelle, il est de pratiquement 1000 milliards de dollars. Pour lui, c'est un signe de faiblesse des États-Unis. En taxant, il entend limiter les importations et donc rééquilibrer la balance commerciale. La conséquence, toujours selon Donald Trump, plus d'investissements du monde entier sur le sol américain pour y augmenter la production et donc créer de la richesse et des emplois avec au bout de la chaîne évidemment des rentrées fiscales fédérales plus importantes. Bref, une logique protectionniste à demande égale si l'on suit le président américain. L'offre américaine va remplacer l'offre du monde entier.
C'est ce qu'il avait d'ailleurs entrepris durant son premier mandat et ça n'avait pas spécialement fonctionné.
Ah non, selon la réserve fédérale de New York, entre 2018 et 2019, avant la pandémie de Covid, donc la guerre commerciale de Donald Trump a coûté en moyenne 850 dollars par an à chaque foyer américain. Ce qu'on comprend donc, Julien, c'est que sur le court et moyen terme, le premier impact visible, eh bien, ce sera une hausse du niveau général des prix. Le niveau de vie des Américains va donc diminuer en raison d'une inflation que beaucoup d'économistes annoncent importante.
Mais pourtant, Stéphane, Donald Trump l'a encore affirmé hier, les États-Unis ressortiront fort, ce sont ses mots de cet épisode.
Et là, le président américain met la pression au monde entier, comme souvent, en cassant les codes et en sortant du système, il incite à négocier. Mais il prend un risque, beaucoup de pays ne sont pas dans cet état d'esprit et entendent eux aussi se défendre en augmentant les tarifs douaniers pour taxer les produits importés depuis les États-Unis.
Et puis il y a un point essentiel, le dollar ne cesse de perdre de sa valeur.
Oui, et c'est sûrement l'un des éléments clés de la stratégie de l'administration Trump. Ces mesures engendrent une baisse du billet vert et ça peut soutenir l'agressivité tarifaire américaine. La monnaie étant moins forte, il est plus facile d'exporter et moins intéressant d'importer. Donc naturellement, cela tend à réduire le déficit commercial américain. Voilà pour la théorie de Donald Trump, un peu trop simpliste pour beaucoup d'économistes. Ce qui est sûr, c'est que jouer avec le dollar, la monnaie mondiale de référence, c'est là encore changer la donne pour le monde entier. Finalement, Julien, pour revenir à notre point de départ, si Donald Trump veut rendre l'Amérique encore plus grande, il le fait au détriment du reste du monde. Et dans une économie globalisée, ultra connectée, interdépendante, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que les conséquences seront elles aussi globalisées.
Merci Stéphane Genest. Et on continue de parler de ces droits de douane exorbitants annoncés par Donald Trump, un risque important pour les perspectives mondiales, a déclaré hier la directrice du FMI. Comment analyser les réactions depuis mercredi? Qu'elle riposte désormais, notamment côté européen, alors que l'UE fait partie des plus sévèrement touchés avec 20% de droits de douane annoncés. Le point avec notre invité. Bonjour Shane Vallée.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, ancien conseiller d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, aujourd'hui chercheur au Conseil allemand pour les affaires étrangères. Les bourses du monde entier, à commencer par celles des États-Unis, ont fortement dévissé hier, et au-delà des risques de récession, d'inflation que ces mesures font courir aux États-Unis, on voit les premières réactions, notamment la Chine annoncer la suspension de tout nouvel investissement aux États-Unis en attendant de voir. Emmanuel Macron appelle les entreprises françaises à faire de même. Donald Trump, qui espérait vendre davantage à l'étranger, voire s'implanter des entreprises aux États-Unis, pourrait-il être pris à son propre piège et voir tout le contraire se produire ?
Oui, je pense que Donald Trump est en train de créer une incertitude majeure, non seulement sur la politique américaine, mais sur l'économie mondiale, et que ça, c'est ni bon pour l'économie mondiale, ni bon pour l'économie américaine, donc il prend un risque majeur. Je pense qu'il faut voir dans les semaines qui viennent quelles vont être les réactions du reste du monde, de la Chine, de l'Union européenne, du Japon et des plus gros partenaires commerciaux américains. Je pense que chacun de ces grands blocs est traversé par plusieurs grandes questions et trois grandes options, j'ai envie de dire. La première, c'est de suivre un petit peu le modèle suivi par le Canada, c'est-à-dire de répondre avec force aux tarifs douaniers américains en imposant en retour aux États-Unis des tarifs douaniers équivalents. Si l'Europe venait à choisir cette option, pour vous donner une idée des chiffres, puisqu'on importe beaucoup moins de biens des États-Unis que l'inverse, ça voudrait dire imposer des tarifs douaniers aux États-Unis de l'ordre de 40 à 50% sur tous les biens en excluant l'énergie. Donc ce serait un choc massif à la fois pour les États-Unis mais aussi pour eux. Mais le droit commercial aujourd'hui nous autorise à répondre aux États-Unis $1 pour $1, et donc on serait fondé de prendre ce genre de choix.
Alors après les annonces de Donald Trump, hein, les premières réactions n'ont pas tardé justement côté européen. Parlons-en. Nous sommes prêts à répondre, a déclaré Ursula von der Leyen, alors qu'Emmanuel Macron a réuni en urgence, moins de 24 heures après, les acteurs les plus concernés par les tarifs douaniers. Quelle impression vous donne ce début de réaction européenne depuis mercredi ?
C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Donc l'Union européenne peut choisir de répondre avec force en mobilisant tous les instruments commerciaux dont elle dispose, mais elle peut aussi élargir le domaine de la lutte et choisir de s'attaquer aux services, de taxer les entreprises américaines présentes en Europe, de réduire leur accès au marché européen. Je pense notamment au marché des services financiers pour les fonds ou les banques américaines. Donc il y a une panoplie d'outils potentiellement très large qu'elle peut utiliser. Je pense qu'on y verra un petit peu plus clair la semaine prochaine. Les ministres du commerce extérieur se réunissent à Bruxelles lundi, et donc je pense qu'ils commenceront à discuter de ça. Et je pense que la véritable difficulté pour l'Union européenne, c'est de savoir si il faut hausser la voix et avoir une réponse la plus forte possible pour engager une négociation à notre main. C'est un peu la stratégie qu'a suivi les Canadiens, ou plutôt avoir une réponse modérée, appelons ça la stratégie mexicaine, et espérer que cette stratégie de réponse modérée ouvre un dialogue. Ce qui est en tout cas évident et peu probable aujourd'hui, c'est qu'on choisisse l'option de ne rien faire.
Ouais.
Certains économistes prônent cette option en disant a priori, de toute façon, les tarifs douaniers, ce sont ceux qui les imposent, qui les payent, et donc ce n'est pas dans l'intérêt de l'Union de choisir cette voie. Moi, je pense qu'il faut avoir une attitude plutôt musclée, et ce qu'ont fait les Canadiens laisse à penser que quand on répond avec force à Donald Trump, il est capable d'entendre et parfois de reculer.
Oui, et d'ailleurs, vous avez signé une tribune dans Le Monde il y a quelques jours appelant l'Europe à déployer un arsenal de défense économique crédible. Vous appelez un protectionnisme de dissuasion capable de déclencher, si nécessaire, des frappes économiques dans la profondeur. Vous l'avez dit, les Européens réfléchissent à la suite, mais ils prennent leur temps avec une réponse annoncée pour la fin du mois d'avril et les dirigeants européens qui disent toujours espérer sortir par la négociation. C'est encore réaliste de vouloir négocier avec Donald Trump aujourd'hui ?
C'est une bonne question. Moi, je pense que négocier strictement sur les questions commerciales, ce n'est plus possible. Et je pense qu'au fond, ce que Donald Trump et en tout cas une partie de son équipe veulent, c'est une négociation beaucoup plus large. Et une négociation d'ailleurs qui serait pas forcément à notre désavantage. Une négociation qui s'étendrait au-delà des questions commerciales à d'autres champs. Et je pense notamment à la question du taux de change. Au fond, l'administration de Trump, dans son premier mandat, semblait considérer que seuls les tarifs douaniers permettraient de résorber le déficit commercial américain. Aujourd'hui, une partie de son équipe considère que, au fond, le cœur du problème, c'est la surévaluation structurelle du dollar, dont on peut débattre. Mais leur argument à eux, c'est que puisque le dollar est une devise de réserve internationale, le dollar est structurellement surévalué, et donc cette surévaluation structurelle crée un déficit commercial. Nous, Européens, aurions peut-être intérêt à lancer une négociation multilatérale avec la Chine, le Japon, les États-Unis, et indiquer que nous serions prêts à un ajustement des taux de change mondiaux, à une baisse éventuelle du dollar, une appréciation modérée de l'euro, du yen et surtout de la devise chinoise, et d'engagement en matière de politique économique qui permettrait de résorber les excédents courants européens, les excédents chinois et japonais. Et donc je pense que dans un grand deal comme ça, comme l'équipe de Trump a évoqué l'idée d'un Mar-a-Lago Accord, en image aux accords du Plaza qui ont eu lieu en 1985 et qui avait permis à l'époque aussi d'organiser de manière coopérative et multilatérale une baisse du dollar, nous pourrions peut-être sortir par le haut de cette crise économique et commerciale. Moi, je crains qu'en limitant la négociation aux sujets commerciaux, nous ayons beaucoup de mal à trouver une issue.
On a beaucoup parlé des Européens, Shine Valley, car c'est un sujet que vous connaissez bien, mais on l'a dit, c'est le monde entier qui est touché par les droits de douane de Donald Trump. Alors, vous avez parlé de négociations, par exemple, entre l'UE, la Chine, le Japon et les États-Unis. Mais on voit aujourd'hui que la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, même des pays comme le Royaume-Uni qui affichaient leur bonne volonté, sont très frappés par les mesures de Donald Trump. Est-il possible que les États-Unis soient en train de créer de leur propre autarcie? Y a-t-il un scénario où tous ces pays, toutes ces régions touchées, au lieu de négocier, se détournent des États-Unis et se mettent à commercer principalement ensemble?
Oui, le grand risque pour les États-Unis, mais aussi pour l'économie mondiale, c'est une redéfinition complète de la carte du commerce mondial, ce qui est porteur d'opportunités pour beaucoup de pays, mais aussi porteur de risques, y compris pour nous en Europe, puisque ceci voudrait vraisemblablement dire que énormément des surcapacités chinoises, et notamment des surcapacités industrielles, viendraient se déverser en Europe. Donc on bénéficierait de produits chinois à peu de coûts, à coûts faibles, mais par contre on aurait un risque majeur sur la compétitivité de notre industrie. Donc je pense que ça poserait aussi une question sur comment ces pays-là, en réorganisant les flux de commerce mondiaux, se protègent éventuellement d'un dumping chinois qui pourrait être destructeur.
Mais
il est vrai que les États-Unis ont un risque important.
Merci Shine Valley, ancien conseiller du président du Conseil européen et du ministre français de l'économie, chercheur au Conseil allemand pour les affaires étrangères. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Et à très bientôt sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions ?
Colère, peur, tristesse, retrouver l'apaisement sans oublier son ressenti.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société Les écrans de la réalité, du 1er au 5 avril à Douai, offre au public et aux professionnels un panorama de l'actualité internationale. Au programme, projection en présence des réalisateurs, avant-première, débats et exposition photo pour voir et comprendre le monde avec ceux qui le racontent. Le FIGRA, du 1er au 5 avril. Plus d'informations sur figra.fr, en partenariat avec France Média Monde.
Géopolitique.
Depuis le début des plus de 70 jours de mandature de Donald Trump à la Maison-Blanche, on assiste à un basculement géopolitique avec des conséquences importantes sur les relations internationales construites depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan intérieur, les contre-pouvoirs que constituent le Congrès, la justice ou la presse sont affaiblis et menacés. Regarde un spécialiste américain avec Marie-France Chatin dans Géopolitique ce samedi à 17h10 TU.
RFI.